Oui, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est invincible, imbattable. Devant notre Dieu, il n'y a pas de cas grave. Devant notre Dieu, il n'y a pas de problème insoluble. Notre Dieu est plus grand que tous nos ennemis réunis. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu peut tout. Oui, ce matin, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence, dans la présence du Dieu grand. Si grand à tel point que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent aucunement te contenir. Si grand à tel point que, ô Dieu, ô roi, nous savons à quoi te comparer, à qui te comparer. Comment pouvons-nous comparer ce Dieu si grand, ce Dieu dans la main de qui se trouve tout l'univers? Comment pouvons-nous, ô Dieu, ô roi, te comparer à quelque chose, à quelqu'un? Tu es unique. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci. Ce Dieu tout-puissant est le Dieu qui parle. Ce Dieu tout-puissant est le Dieu qui transforme. Ce Dieu tout-puissant est le Dieu qui bénit. Seigneur notre Dieu, le moment est arrivé. Nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu suscites le désir de te chercher, le désir de nous rapprocher de toi, que tu mettes dans nos cœurs la soif et la fin de Dieu. Et que le Saint-Esprit soit en action et glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, prends toute la place et règne parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu Tout-Puissant? Oui, notre Dieu est Tout-Puissant. Il est réel et vrai. Shalom bien-aimés. Nous bénissons abondamment le Seigneur notre Dieu pour la faveur qu'il nous accorde ce matin de nous retrouver dans sa présence. Et nous disons grandement merci à nos parents spirituels qui nous renouvellent une fois de plus leur confiance pour que par notre canal, Dieu puisse parler au cœur de chacun de nous. J'aime bien un passage biblique dans Psaume 73, 73, le tout dernier verset. Asaph dit dans ce passage, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Il y a quelqu'un qui a dit que quand tu cherches l'Éternel, n'abandonne pas avant que tu ne l'aies trouvé. Et ce matin, je nous dis, j'ajoute, que quand tu l'auras trouvé, eh bien, tu ne l'abandonneras jamais parce que tu vas te rendre compte que Dieu est meilleur, qu'il n'y a pas mieux que Dieu. Et d'ailleurs, amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 13. Nous allons faire une assez longue lecture, mais ça vaut la peine. 1 Chronique chapitre 13, 1 à 4. Nous sauterons pour lire 7 à 14. Et nous ajouterons un autre verset. 1 Chronique 13, 1 à 4, puis 7 à 14. Je lis pour nous tous. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël. » Excusez-moi. « Et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent en nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Akjo conduisaient le char. C'est 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité. Dans d'autres versions, il est dit, David fut accablé, il fut bouleversé, c'est-à-dire il fut choqué de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. À cette lecture, nous allons ajouter un passage parallèle, juste un verset. C'est dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 12. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12. C'est un passage parallèle pratiquement. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Amen. Comme vous pouvez le constater, nous sommes pratiquement dans notre thème de l'année, plus près de toi Seigneur. Plus près de toi Seigneur. Et ce matin, nous avons comme sous-thème l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Edom. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. C'est comme si, parce que certainement c'est avec l'aval d'Obed-Edom, nous allons voir ça, que l'arche de l'Éternel est entrée dans sa maison. Obed-Edom pouvait refuser et même risquer sa mort parce qu'il pouvait dire au roi non. Nous allons voir pourquoi il pouvait dire non, mais il ne l'a pas fait. Mais parce qu'il a accepté que l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu, entre dans sa maison, nous pouvons dire la présence de Dieu plus près de Obed-Edom. Obed-Edom plus près de Dieu. Ce message va s'articuler autour de 2 points. Le premier, dans un premier point, nous allons parler de l'attitude de Saül à l'égard de l'arche de Dieu. Et dans le deuxième point, nous allons parler de la présence de l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Edom. L'attitude de Saül à l'égard de l'arche de Dieu. Du temps du souverain sacrificateur Élie, le peuple d'Israël était tombé dans l'infidélité envers l'Éternel. Et à cause de leur infidélité, l'Éternel les avait livrés pratiquement aux Philistins. Un jour, alors qu'ils étaient sur le champ de bataille, les enfants d'Israël seront battus. Et ils vont se dire, non, si nous sommes battus, certainement c'est parce que l'arche de Dieu n'est pas avec nous. Allons prendre l'arche de Dieu, ramenons-la sur le champ de bataille. Ils se disaient que l'arche de l'Éternel, Dieu étant au milieu d'eux, sur le champ de bataille, certainement, ils vont avoir la victoire. Ils vont remporter la victoire sur les Philistins. Mais curieusement, ils seront battus à plate couture, malgré la présence de l'arche de l'Éternel. Ils seront battus à plate couture et l'arche sera emportée par les Philistins. Les Philistins vont ravir l'arche de l'Éternel, ils vont l'amener dans leur camp. Et là, nous pouvons tirer la leçon comme quoi les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir en notre faveur que dans la mesure où nous sommes en communion avec l'Éternel. Dieu est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles. Les attentes des Israélites, eh bien, ces attentes ont été déçues parce qu'ils n'étaient pas en communion avec l'Éternel, parce qu'ils lui étaient infidèles. Alors, lorsque l'arche de l'Éternel va se retrouver dans le camp des Philistins, eh bien, ils vont constater beaucoup de dégâts dans leur société, la société de Philistins. Et ils seront vraiment dans la consternation. Ils vont donc comprendre que s'il y avait des maladies dans leur camp, c'était certainement à cause de la présence de l'arche de Dieu parmi eux. Alors, craignant la mort de tous les peuples, ils vont finalement prendre la décision de s'en débarrasser. Qu'est-ce que l'arche de l'Éternel avait occasionné comme dommage et comment les Philistins l'avaient renvoyé en Israël? Bon, nous n'avons pas le temps pour parler de tout cela, mais nous pouvons lire ces beaux récits dans 1 Samuel chapitre 4 jusqu'à 6. Alors, les Philistins vont ramener l'arche. Comment ils vont la ramener? Eh bien, vous pouvez lire la suite, toujours dans ce passage de 1 Samuel chapitre 4 à 6. Ils vont donc la ramener dans le camp d'Israël, exactement dans la maison d'Abinadab. Et cette arche va rester 20 ans dans la maison d'Abinadab. Plus tard, Saül deviendra roi, le tout premier roi d'Israël. Mais curieusement, Saül ne va pas se préoccuper de l'arche de l'Éternel. Il ne va pas du tout penser à l'arche de l'Éternel. Comme nous l'avons dit, l'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Saül ne va pas du tout s'occuper de la présence de Dieu, s'occuper du Dieu qui avait fait de lui roi d'Israël. Durant tout son règne, l'attention de Saül était focalisée sur son pouvoir, pas du tout sur l'Éternel. Un jour, alors que Dieu l'avait envoyé détruire les Amalécites et tout ce qui leur appartenait, mais Saül n'avait pas obéi à l'ordre de l'Éternel, il avait amené des bœufs et des brebis dans sa maison. Et Dieu, parce que Dieu était irrité, il va demander à Samuel d'aller chez Saül. Quand Samuel va arriver chez Saül, Saül trouve tout à fait normal, par exemple, de dire au prophète Samuel que l'ébellement qu'il entendait, c'était le bruit que produisaient les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs que le peuple avait épargné afin de les sacrifier à l'Éternel, de les sacrifier au Dieu de Samuel. Le peuple a épargné ses brebis, les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Mais quand il est question de son honneur, quand il est question de l'honneur de Saül, Saül trouve également normal de dire au prophète Samuel, « Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Comme pour dire, « Le peuple sur lequel je règne est à moi, mais le Dieu à qui on doit sacrifier les bœufs et les brebis est à toi. Ce n'est pas mon Dieu, mais il est à toi. » Saül est le type du chrétien qui, quand il est béni, il croit qu'il est le premier et le dernier à occuper le trône. Il oublie ce qu'il a été. Saül oublie ce qu'il a été. Saül croit qu'il est le premier à être sur le trône. Saül croit que ce qu'il est actuellement, il a toujours été. Non, Saül, ce que tu es actuellement, Tu es sur le trône. Tu ne l'as pas toujours été. N'oublie pas. Saül oublie la source de ce qu'il est. Saül, si tu es devenu roi, Saül, si tu es à ce poste-là, ce n'est pas par tes propres efforts. Saül s'attache et donne trop d'importance à ce qu'il est devenu, c'est-à-dire Saül s'attache à la bénédiction, mais il oublie le Dieu de la bénédiction. Désormais, on va constater dans la bouche de Saül trop de jeux, trop de mots, trop de moi, trop de jeux, trop de moi, trop de mots. Saül ne pense plus à l'Éternel. Eh bien, ce genre de chrétien, lorsqu'il est béni, désormais il n'a plus de temps pour Dieu. C'est le travail, c'est le mari, c'est les enfants, ce sont ses occupations, ses propres occupations qui prennent tout son temps. Toutes ses pensées sont focalisées sur ce qu'il est devenu. Mais pourtant, avant, il avait le temps pour Dieu. Bien-aimé, ça ne soit pas le cas pour toi. Quand tu verras la gloire de Dieu, parce que tu la verras, quand tu vas t'approcher de l'Éternel, quand tu vas te rapprocher de plus en plus de l'Éternel, tu verras certainement la gloire de Dieu. Et quand tu le verras, quand tu la verras, n'oublie pas Dieu, n'oublie pas la source de cette gloire-là. Nous allons passer au deuxième point, la présence de l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Edom. Quand le roi Saül meurt sur le champ de bataille, parce que lâché par Dieu, David va le remplacer sur le trône. De sa propre initiative, David va réunir toute l'élite d'Israël. Il va parler aux anciens du peuple pour leur dire, ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous n'en sommes pas occupés à l'époque de Saül. C'est anormal. C'est anormal que durant le règne de Saül, nous soyons incapables de nous préoccuper de l'arche de notre Dieu. C'est anormal. Ramenons cette arche auprès de nous. Comme pour dire, n'agissons pas comme le roi Saül, faisons tout pour que l'Éternel soit plus près de nous. Car en effet, quand nous nous rapprochons de Dieu, lui aussi se rapproche de nous. Bien-aimé, regarde, est-ce que tu te préoccupes de Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Alors finalement, ils vont prendre cette décision d'acheminer, d'amener l'arche de l'Éternel parmi eux. Mais lors de l'acheminement de l'arche de Dieu vers la cité de David, parce que David voulait prendre l'arche de Dieu et l'amener dans sa cité, eh bien, il y aura un incident. Cet incident va pousser même David à changer l'itinéraire de l'arche de Dieu. Comme nous l'avons lu, l'arche de Dieu était posée sur un char qui était conduit par des bœufs. Peut-être que le chemin était accidenté, les bœufs conduisant le char, eh bien, l'arche était sur le point de tomber. Il y a quelqu'un, Uza, qui va tendre sa main, toucher l'arche pour l'empêcher de tomber. Et la colère de l'Éternel va s'enflammer contre lui. Dieu va le frapper de mort sur le champ. Pourquoi ce châtiment? On peut se poser la question. Parce que c'était comme un service que Uza voulait rendre à Dieu pour que l'arche ne puisse pas tomber. Mais pourquoi Dieu l'a frappé de mort? Tout simplement parce que la loi interdisait à quiconque, même au sacrificateur, de toucher l'arche. Vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 4, le verset 15. Et même quand, parce qu'il y avait une classe bien donné, les Kohatites, qui avaient le devoir de transporter l'arche. Quand ils la transportaient, ils plaçaient des barres sur leurs épaules. Et l'arche était, ils mettaient les barres dans l'arche, il y avait des crochets, on mettait les barres dans l'arche et ils transportaient cette arche sans la toucher, sous peine de mort. Que pouvons-nous tirer comme leçon? Comme nous l'avons dit, en touchant l'arche, Uzza voulait rendre un certain service à Dieu. Mais ce service ne lui a pas rapporté de bénédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que ce service n'a pas été fait selon les normes de Dieu. Tel est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui qui se lamentent. Je sers l'Éternel, mais je ne vois rien. Je vais de combat en combat, de difficulté en difficulté. Je consens des sacrifices pour l'Éternel. Est-ce que Dieu voit? Je prie, je vais de jeûne en jeûne, en train de chercher la face de Dieu. Mais je vais de combat en combat, de difficulté en difficulté. Est-ce que Dieu voit? Dieu est-il insensible à ma prière? Dieu n'écoute-t-il plus ma prière? Est-ce que Dieu fait exception des gens? Parce qu'il y a certains avec qui, qui sont tout autour de moi. Ils prient comme moi. Ils servent le Seigneur comme moi. Mais les choses vont quand même, évoluent quand même dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Bien-aimé, il est important de se poser la question de savoir, est-ce que je sers Dieu selon ses prescriptions? Est-ce que je sers Dieu comme il veut? Et quelle vie je suis en train de mener? Quel genre de chrétien je suis? Est-ce que je suis réellement chrétien conformément à la parole de Dieu ou j'ai juste le nom de Jésus dans la bouche? Bien-aimé, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de porter la Bible tout le temps. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui fait de nous enfants de Dieu, qui fait de nous des chrétiens. Non. Ce n'est pas tout service qu'on peut faire. Ce n'est pas tout sacrifice qu'on peut faire pour Dieu qui lui est agréable. Non. Est-ce que c'est conformément à la parole de Dieu? Est-ce que je marche conformément à la parole de Dieu? Si je suis dans le mélange, je sers tout en faisant n'importe quoi, tout en parlant de n'importe quelle manière, eh bien, ce sacrifice-là, ce service-là, ne peuvent aucunement plaire à l'Éternel. Nous ne pouvons pas évoluer pour ce faire. Bien-aimé, Dieu ne prend pas plaisir à nos sacrifices, non. Dieu prend plaisir à notre obéissance. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu avec nos libéralités, avec nos dîmes, avec nos offrandes. Il y a quelques années, j'étais avec un directeur, un grand directeur quelque part d'une société, de quelque part. J'étais dans son bureau. Il me dit, pasteur, en tout cas, je soutiens beaucoup les serviteurs de Dieu et certaines églises. J'achète des tôles, j'achète des chaises. Je les leur offre. Mais que l'Éternel ait pitié, que l'Éternel ferme ses yeux sur ma manière de vivre. Que ce que je lui donne, que ce que j'ai fait là, puisse parler devant lui. Non, nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Du reste, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de lui. Dieu veut notre obéissance. Dieu prend plaisir à notre obéissance. C'est du moment que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est du moment que nous mettons en pratique la parole de Dieu que ce que nous consentons comme sacrifice, que ce que nous faisons comme service, lui est agréable. Et Dieu ne peut aucunement manquer de nous bénir. Revenons à notre texte. Réalisant que l'arche de Dieu provoque la mort, parce que David voulait amener l'arche de l'Éternel dans sa cité, parce que David voulait s'occuper de l'arche de l'Éternel, Il ne voulait pas être comme Saül. Mais il constate que l'arche de Dieu provoque la mort. David va avoir peur de ramener l'arche de l'Éternel dans sa cité. C'est ainsi qu'il va prendre la décision de la loger dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Qui était Obed-Edom de Gath? J'ai fait quelques petites recherches. Obed-Edom de Gath ne faisait pas partie de l'élite du culte judaïque, non. Il n'était pas sacrificateur. Il n'était pas souverain sacrificateur. Non. Il n'était pas lévite. Pas du tout. Eh bien, Obed-Edom de Gath n'était qu'un simple philistin. Il était un philistin. Mais parce qu'il a accepté que l'arche de l'Éternel, il n'a pas eu peur. Certainement qu'il avait eu l'information comme quoi l'arche de l'Éternel provoque la mort. Mais il a accepté que cette arche soit logée dans sa maison. Il a accepté la présence de Dieu dans sa maison. À cause de cela, Dieu va le combler de bénédictions. Et même tout ce qui lui appartenait était béni. Lorsque nous rapprochons de Dieu, lorsque nous venons auprès de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, lorsque nous prenons la résolution de vivre pour Dieu et avec Dieu, lorsque nous prenons la résolution de marcher conformément à la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons pas rester le même. Non. Il n'y a personne qui a été en contact avec un roi de ce monde qui est resté le même. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le roi de ce monde ne donne pas de présents, ne donne pas de cadeaux comme le ferait n'importe quel individu. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a un joueur qui avait fait quelque chose à l'étranger, il avait été refoulé, et notre président dit que je vais le recevoir et je vais lui donner un cadeau. Pensez-vous que le président allait lui donner un cadeau que moi et toi pouvions lui donner? Non. Non. Lorsqu'on rencontre le roi, lorsqu'on prend la résolution de marcher avec le roi, on ne peut pas rester le même. La maison d'Obed-Edom fut bénie et tout ce qui lui appartenait fut également béni. Rappelons-nous le message du dimanche passé. Il nous a été dit que les disciples n'écriez pas sur les toits que nous avons été avec Jésus. Nous avons été avec Jésus. Non. Les membres du Sanhédrin avaient tout simplement constaté que ces gens-là, ces disciples-là, étaient sans instruction. C'étaient des hommes ordinaires. Mais seulement, ils avaient aussi constaté que l'assurance avec laquelle ils parlaient, lorsque nous sommes avec Jésus, lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu va apposer sur nous sa marque. Dieu va apposer sur nous sa signature. Nous n'aurons pas besoin de parler, de dire à tout le monde que Dieu m'a béni. Nous n'aurons pas besoin de parler à tout le monde que moi, j'ai été touché par Dieu. Nous n'aurons pas besoin de parler à quiconque veut nous entendre que Dieu m'a béni, que Dieu m'a transformé. Non, les gens eux-mêmes vont constater. Ils vont se dire que certainement, ça c'est le doigt de Dieu. Certainement que ça c'est une nouvelle créature. Certainement, celui-ci est avec Dieu. La proximité avec le Seigneur laisse sur nous des traces que personne ne peut effacer. Des traces qui témoignent sa présence dans notre vie. De la même manière, Obed-Edom non plus n'a pas crié sur le toit que je suis béni. Non. Obed-Edom n'a pas crié sur le toit que tout ce qui m'appartient, tout, je pense, même ses activités, même ses enfants, même son épouse étaient bénis. Non, il n'a pas crié sur les toits. Les gens ont seulement observé, ils ont réalisé qu'il était béni. Alors ils ont fait des recherches. Qu'est-ce qui est à la base de sa bénédiction? Ils ont découvert que c'est à cause de l'arche de l'Éternel qui y était dans sa maison. Être plus près de Dieu ne provoque pas la mort. Pas du tout. Être plus près de Dieu nous bénit. Ça nous donne la paix. Peut-être que ma soeur, mon frère, tu manques la paix. Cherche l'Éternel. Crie à l'Éternel. Invoque l'Éternel. Ce que tu as de meilleur à faire, c'est de chercher la face de Dieu. Il est le Dieu qui donne la paix. La présence de Dieu nous rassure. Peut-être que tu es indécis. Cherche la face de Dieu. La présence de Dieu assure nos lendemains. Non seulement qu'elle nous rassure, mais elle assure également nos lendemains. La présence de Dieu nous sécurise. La présence de Dieu apaise nos cœurs. Il y a une sœur, il y a quelques années, qui me voit, qui me dit que quand elle va dans sa famille, elle a toujours peur. Elle ne comprend pas. Elle n'est pas à l'aise. Elle ne comprend pas. Il faut qu'elle aille passer son séjour chez des amis. Quand elle vient chez elle, elle se sent menacée. Elle a peur. Elle ne sait pas pourquoi. Cherche la présence de Dieu. Peut-être que tu as peur. La présence de Dieu nous donne, apaise même notre sommeil et garantit notre éternité. La présence de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Obed Edom a accepté que l'arche de l'Éternel vienne dans sa maison et il n'a pas regretté. Soulignons que l'arche de Dieu contenait un certain nombre d'éléments, dont les deux pierres de la loi. Ça se trouvait dans là, c'était une espèce de coffre où se trouvait un certain nombre de choses, dont les deux pierres de la loi. Et si nous pouvons actualiser, nous dirons que l'arche de l'Éternel contenait la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, lorsque nous nous laissons tailler par elle, nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Parce que l'arche de l'Éternel était dans la maison de Dieu. Parce que Obed-Edom de Gath était tout le temps à côté de la parole de Dieu. Comme vous l'avez réalisé, Obed-Edom de Gath n'était plus la même personne. Être plus près de Dieu, c'est aussi se laisser tailler par la parole de Dieu. Et si nous le faisons, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens à notre manière. Il y a certains chrétiens qui disent que non, moi je suis chrétien à ma manière. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est celui qui prétend être chrétien à sa manière là, il a le même langage que sans, qu'avant de confesser qu'il est chrétien. Il a les mêmes manières que celles qu'il avait avant. Je suis chrétien à ma manière. D'ailleurs, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ce qui est apparent, ce qui frappe les regards. Ça, c'est vrai. Mais sachons aussi que notre homme intérieur se reflète par notre homme extérieur. Qu'est-ce que les gens sont en train de lire sur toi? Toi qui te dis chrétien. Toi qui dis que je suis en contact avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que les gens lisent sur toi? Quand les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent dire que tu es différent d'eux? Dans Matthieu chapitre 73, le verset 26, un passage que nous connaissons certainement, alors que Jésus venait d'être condamné par le Sanhédrin, ou était sur le point d'être condamné, Pierre est sûr et certain que, en tout cas ici, mon maître sera condamné. Il ne veut pas, il ne veut pas montrer à tout le monde qu'il est l'un de ses disciples. Pendant qu'il est en train de parler, parce qu'il était entouré par des gens, il voulait aussi participer à la discussion. Pendant qu'il était en train de parler, les gens l'ont écouté. Ils ont dit, toi, tu ne parles pas comme nous, tu parles comme eux. Quelqu'un sur qui Jésus avait apposé sa marque. Comment toi tu parles, toi qui te dis chrétien, à ta manière? Comment tu parles? Qu'est-ce que les gens entendent de ta bouche? Qu'est-ce que les gens voient sur toi? Qu'est-ce que les gens lisent sur toi? Et avec ça, tu prétends recevoir de Dieu la bénédiction? Non, bien-aimé. Si nous sommes en contact avec la parole de Dieu, nous ne serons pas les mêmes personnes. Si nous sommes en contact avec la parole de Dieu, si nous sommes plus près de Dieu, eh bien, nous allons subir la transformation. Dieu va nous toucher. Nous n'aurons pas la même image. Nous n'allons pas accorder la même importance aux choses comme autrefois. Nous n'allons pas voir les choses comme autrefois. Non. Même notre conception sera changée. Nous n'aurons pas à fournir des efforts pour être chrétien. Non. Ça va couler de soi. Parce que le christianisme, c'est une vie. Nous allons vivre autrement, pas en fournissant des efforts, non. Nous allons parler autrement, pas en fournissant des efforts, non. Parce que nous avons une nouvelle nature, la nature de Christ. Être plus près de toi, ça nous fait du bien, ça nous change, ça nous transforme. N'est-il pas écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles dans ton comportement, dans ta présentation? L'arche de Dieu dans la maison de Bédédom a apporté la bénédiction. Et cette bénédiction a été remarquée par plusieurs. C'est vrai. Dieu bénit. Mais cette bénédiction n'est pas seulement financière, n'est pas seulement matérielle. Non. Je pense qu'avant d'être financière, avant d'être matérielle, elle est d'abord interne. Dieu change d'abord notre homme. Notre homme intérieur doit d'abord être changé. N'est-il pas écrit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire d'abord l'âme prospère, après quoi la suite. La bénédiction de l'Éternel n'est pas seulement matérielle et financière, mais elle concerne aussi notre homme intérieur. Et nous n'aurons pas à proclamer le changement de notre homme intérieur, non. Tout autour de nous, les gens vont le remarquer. Et cette proximité avec Dieu va nous bénir à tous égards. Quand David a appris, dans le deuxième passage que nous avons lu, de 1 Samuel, de 2 Samuel, quand David a appris que Obed-Edom était béni, ainsi que tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de l'Éternel qui était dans sa maison, il va finalement prendre la résolution d'aller récupérer l'arche et de la ramener dans sa cité. David n'a plus peur de l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, recherchons la proximité avec Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans sa mise en pratique. Le Seigneur transformera notre homme intérieur, il nous bénira et cette bénédiction deviendra un témoignage. Plusieurs verront ce que le Seigneur aura fait dans notre vie et il s'attacheront à lui, ils viendront à lui. Même ceux qui l'avaient abandonné, qui avaient abandonné Dieu, lorsqu'ils verront cette bénédiction, eh bien, ils viendront à l'Éternel. Lorsqu'ils verront ce que Dieu aura fait de nous, ce que Dieu aura fait pour nous, ils viendront à l'Éternel. Là, le changement qu'ils verront sera comme une espèce d'évangélisation. David est revenu vers l'arche de l'Éternel. Il l'a prise, il l'a amenée dans sa cité. Et cela ne lui a pas communiqué la mort. Non. Dieu ne nous communique pas la mort. Dieu nous communique la vie et la vie en abondance. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Veux-tu que la présence de Dieu soit manifeste dans ta maison, dans ta vie? Veux-tu que Dieu opère dans ta vie et fasse de toi ce qu'il veut pour être à son service selon ses desseins, afin que tous le voient, afin que tous viennent à Dieu? Veux-tu vivre la gloire de l'Éternel? Accepte et désire de tout ton cœur de t'approcher de Dieu, de chercher la face de l'Éternel, et tu ne le regretteras jamais. Plusieurs diront, nous voyons que Dieu l'a béni. Nous voyons qu'il n'est plus la même personne et toute la gloire reviendra à notre Dieu. Nous allons nous courber dans la prière. Va élever ta voix et bénir le Seigneur. Dieu t'a parlé certainement dans tel ou tel autre aspect. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose?
Prions le Seigneur. Saül ne s'est pas préoccupé de la présence de Dieu pendant tout son règne. Où est la place de Jésus dans votre cœur? Dans mon cœur, la place de la parole de Dieu. Est-ce que Jésus est au centre de notre vie? Ce matin, c'est un matin de grâce. Ce n'est pas un matin de condamnation. C'est un matin où le Seigneur veut relever quelqu'un. Qui veut donner sa vie à Jésus et dire, non, je veux être plus près de toi, je te donne ma vie. Prends ma vie, comme Obed-Edom avait fait. Je me donne totalement à toi. A-t-il quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Nous voulons lui donner l'occasion de pouvoir s'abandonner entre les mains du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui s'est dit non, je me reproche de quelque chose, mais je vais me rapprocher de ce Dieu pour que Dieu ait pitié de moi. J'aimerais te dire que Dieu a pitié de toi et te propose déjà son pardon et veut te relever. Si seulement tu fais un pas, tu te donnes à lui, lui te relève. Y a-t-il quelqu'un comme ça qui veut la grâce de Dieu ce matin et donner sa vie à Jésus? Lève la main alors que nous voulons prier pour lui et avec lui. Merci pour la main qui s'élève. Levez bien la main. Vous qui avez levé la main, gardez-la levée. Papa Berry, nous allons prier. Levez bien la main. Gardez-la debout. Levez plutôt, excusez-moi. Gardez la main levée. Voilà, il y a Père Ness qui s'avance pour prier.
Précieux Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta parole ce matin. Le Dieu qui nous aime et qui nous lance un appel, celui de nous approcher de lui, être dans la proximité de Dieu. Merci pour ce frère et sœur qui ce matin ont pris la décision de te donner leur vie, Seigneur. Afin que tu sois pour eux le Sauveur et le Seigneur pour tout jusqu'à l'éternité. Merci de les bénir et de nous bénir tous, parce que ta parole est sortie, non pas pour nous condamner, mais pour nous apprendre à ce que nous soyons plus proches de toi, parce que la bénédiction est la clé que toi tu réserves à quiconque s'approche de toi. Merci pour ta parole, bénis ton serviteur et bénis le peuple.
Amen.